10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin est l'invité du grand rendez-vous en ce jour de commémoration de l'armistice de 1918. Cet après-midi, Dominique de Villepin, on l'a évoqué dans cette première partie d'émission, s'ouvre donc un forum sur la paix. Donald Trump sera absent. Vladimir Poutine, lui, honorera de sa présence ce forum. Il y a quelques jours, dans Paris Match, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, disait « Je suis inquiet pour les institutions démocratiques ». Et le même cri d'alarme était lancé par la directrice du FMI, Christine Lagarde, qui disait « Les élites n'ont pas conscience de ce qui se passe ». Est-ce que vous partagez aujourd'hui leur inquiétude ?
Bien sûr, il y a trois grands héritages en termes de principes de 1918. Le premier principe dont nous héritons fortement, c'est le principe national, avec la fin des grands empires austro-hongrois, allemands, russes et d'autres. Le deuxième grand principe, c'est le principe démocratique, qui gagne et s'étend considérablement en Europe et ailleurs. Et le troisième grand principe, c'est celui de sécurité collective, avec la création qui suivra de la Société des Nations. Ces trois grands principes sont en crise, au point qu'aujourd'hui on dénonce le nationalisme, qu'on s'interroge sur l'existence de plusieurs formes de démocratie, libérale et illibérale, et la sécurité collective, elle est en panne, elle est bloquée, on voit bien l'impuissance des Nations Unies dans un certain nombre de crises et de guerres. Donc oui, la question de remettre en marche, de revitaliser, de repenser à la fois la question nationale, la question démocratique qui est aujourd'hui un enjeu majeur. On le voit bien, la démocratie apparaît à la fois impuissante et inefficace, au point que certains s'opposent à travers
le monde. Elle est aujourd'hui contestée dans un certain nombre
de
pays.
Et les régimes autoritaires apparaissent plus attractifs. Et d'ailleurs, ils gagnent en influence. Et je ne parle pas de la sécurité collective. Donc, mettre en avant à travers ce forum un certain nombre de projets, d'idées me paraît une bonne chose. Mais une fois de plus, pour que ce ne soit pas un rêve irénique, il faut partir de la réalité. Et nous, Français, nous avons à donner l'exemple. Je prendrai deux exemples concrets où la diplomatie française et le président de la République pourraient s'engager activement. La première crise dont je parlerai, c'est le Yémen. Le Yémen est une guerre oubliée qui fait des milliers de morts, de femmes, d'enfants, famine. Et aujourd'hui, nous avons une chance exceptionnelle de pouvoir mettre une fin à cette guerre à travers le drame de M. Khashoggi en Turquie.
Par quel levier la France pourrait agir ?
L'Arabie saoudite est aujourd'hui vulnérable. Son leadership est contesté. Et cette guerre que mène l'Arabie saoudite est une guerre illégitime. Directement ou indirectement, les pays européens, les pays occidentaux soutiennent l'Arabie saoudite.
Notamment par la vente d'armes.
Et les pays du Golfe dans cette région. Voilà un sujet, un enjeu sur lequel nous pourrions très fortement nous engager. Et j'espère qu'il a été au centre des discussions entre le président Trump et Emmanuel Macron hier. Mais voilà où nous pourrions faire la différence. Par le moment, par les leviers dont nous disposons vis-à-vis de l'Arabie saoudite et par l'intérêt régional. Nous avons intérêt à fermer cette guerre parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de rabibocher les pays de cette région, et au premier chef, bien sûr, l'Arabie saoudite et l'Iran. Je prends un deuxième exemple.
Mais à quel levier pensez-vous pour agir à l'égard de l'Arabie saoudite ?
Les ventes d'armes, l'image même de l'Arabie saoudite, qui, malgré tout, sort considérablement affaiblie, et tant le roi que le prince héritier, nous avons là un levier considérable dans les relations bilatérales, dans les relations entre l'Europe et ses pays, dans le positionnement de l'Occident, pour faire comprendre au régime saoudien que cette guerre est inacceptable et qu'elle est contre-productive, y compris pour eux.
Et comment expliquez-vous le fait que la France n'utilise pas ces leviers dont vous parlez ?
Parce que nous avons perdu le goût de l'action. Et que nous avons perdu le goût, au-delà des déclarations d'intention, des remises en cause. Venons-en aux remises en cause. Nous menons une action militaire, une intervention militaire au Sahel. Après la crise malienne, fallait-il ou pas intervenir au Mali ? C'est un vaste débat. En tout cas, ma conviction, pas comme ça. Pas avec plusieurs milliers d'hommes englués dans une région où ils n'arrivent pas à maîtriser le flux et où les actions terroristes se répandent, Côte d'Ivoire, Burkina, et il y a une fragilisation de l'ensemble des régions et une cristallisation des peuples de cette région contre les tenants de cette intervention militaire. Et la France en subira de plus en plus les conséquences. Révisons ce positionnement historique où on croit pouvoir régler les problèmes par une intervention militaire. Et le G5 Sahel, notre action en matière de développement, c'est une goutte d'eau dans le désert du Sahel. Et c'est là où il nous faudrait un grand projet entre l'Europe et l'Afrique. J'appelle de mes voeux que nous fassions ce que les Chinois essayent de faire à travers les nouvelles routes de la soie, un grand projet pour le développement des infrastructures de l'Afrique. Ça nous coûtera moins cher que de continuer ainsi à mener le combat en Afrique, à la fois contre les réfugiés, contre les terroristes, contre les trafiquants, et on voit la menace qui ne cesse de monter. Donc je crois que il faut se poser des questions, il faut sortir de nos habitudes et de nos routines.
Mais est-ce que votre demande d'action n'est pas finalement une mise en retrait de la France, notamment ?
Pas du tout, parce que j'appelle à agir autrement. Autant je crois qu'un grand projet entre l'Europe et l'Afrique pour le développement de l'Afrique, où on mettrait véritablement les moyens, ce qui aurait des retours considérables pour notre propre croissance et pour nos entreprises.
Est-ce que aujourd'hui les pays ont les moyens, justement ? Est-ce que les pays ont cette volonté de travailler en commun et ont les moyens d'action ?
S'il y a une leçon que nous devons retenir des 15 dernières années et de l'histoire, c'est que on ne règle pas les problèmes politiques et économiques par le biais militaire. Et c'est la leçon de l'Afghanistan, c'est la leçon de l'Irak, c'est la leçon de la Libye, et nous refaisons les mêmes erreurs au Sahel. Et on voit bien, ces régions se gangrènent tous les jours un peu plus, ces sociétés se défont. Quelle réponse le Mali apporte-t-il à la question Touareg et à la question Peul ? Et est-ce que nous aidons ces pays ? Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai voyagé dans les différents pays de cette région, et en particulier au Maghreb. Je n'ai pas trouvé un responsable politique, un chef d'État, un Premier ministre, qui croit dans les solutions que nous mettons en avant.
Dans l'aide au développement.
Regardez, mais non, qui croit dans la stratégie militaire mise en place par la France avec d'autres pays. Est-ce que vous croyez que nous sommes soutenus par l'Algérie dans cette aventure ? L'Algérie se positionne en retrait, comme les autres pays du Maghreb. Ouais. Et nous ne le voyons pas, parce que nous travaillons en bonne conscience, nous sommes contents de nous, nous expliquons aux Français que nous les protégeons en faisant
des
la guerre au Sahel.
Terroristes. Notamment.
C'est absurde. C'est absurde. Donc j'invite aujourd'hui à passer à l'action et surtout à revenir à une certaine forme de lucidité. Nous avons, nous, appris, nous sommes les héritiers d'un certain nombre d'erreurs, d'expériences passées. Essayons de ne pas nous cacher la tête dans le sable.
Donald Trump nous dit à nous, Européens, vous devez dépenser plus pour votre défense. Est-ce que ça a un sens, à vos yeux, de parler de défense européenne de...
Mais encore une occasion manquée. Emmanuel Macron a eu raison de parler d'une armée européenne, d'une vraie défense européenne. Et évidemment, Donald Trump a joué la balle, il a suivi la balle. Et il a marqué le coup si fortement qu'Emmanuel Macron n'a pas pu faire autre chose que faire marche arrière.
Par un tweet insultant, et du coup hier... Mais
bien sûr, il a joué le rapport de force, comme le fait à chaque fois Donald Trump, où il semble mettre son poids dans la balance. Et Emmanuel Macron ne voulait pas gâcher la fête des célébrations. Donc il a fait marche arrière, mais il aurait fallu pouvoir dire aux présidents américains et aux Européens qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils prennent leur destin en main en matière de sécurité. Angela Merkel, la première des dirigeants européens, a dit « Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis pour assurer notre sécurité. »
Elle l'a dit, mais que fait-elle ?
C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, il faut que les Européens prennent en main leur défense, et pas seulement dans le cadre de l'OTAN. Le cadre de l'OTAN est un cadre finissant. C'est un cadre du passé. C'est un cadre qui va permettre aux Américains de jouer un peu plus leurs intérêts. Est-ce que nous avons aujourd'hui les mêmes intérêts en Europe en matière de sécurité et en matière économique que les États-Unis ? Je ne le crois pas.
Mais
et c'est ce que nous voyons à l'œuvre, c'est que les États-Unis vont de plus en plus défendre leurs propres intérêts, leurs propres visions, et nous nous sommes englués dans des systèmes d'alliances, des systèmes de défense qui ne sont pas indépendants. Et donc la question aujourd'hui, l'Europe veut-elle être indépendante ? L'Europe veut-elle être capable d'assurer sa sécurité ? Et l'Europe a-t-elle une vision du monde ? Parce que le corollaire de cette politique de sécurité indépendante, ce serait la capacité de nous organiser vis-à-vis de la Chine. Nous avons besoin de remettre à plat nos relations économiques, nos relations politiques avec la Chine, reprendre en main, contrôler les investissements que nous acceptons, que nous n'acceptons pas en Europe, de la même façon vis-à-vis de la Russie. Mais nous sommes muselés. Et la faiblesse, malheureusement, de la diplomatie française et européenne, c'est la conséquence. C'est la conséquence, au-delà des estrades et des politiques de communication, d'une très grande faiblesse et de vision et d'action.
Mais Emmanuel Macron défendait ici même sur Europe 1 mardi, lors de son interview à Nikos Aliagas, cette nécessité de défense européenne. Pourquoi il ne va pas au bout de son idée ? Parce qu'il se sent seul ? Parce qu'il n'a pas le leadership sur le reste des partenaires européens ?
Parce que la politique aujourd'hui ne peut pas se concentrer sur l'essentiel étant tout occupé à la communication et à l'accessoire. C'est tout le problème de ces agendas d'hommes politiques. Qu'est-ce que vous voulez ?
Vous
la
en
priorité,
avez été un ?
La priorité pour Emmanuel Macron en se levant ce matin, c'est que cette journée se passe bien. Et même si on doit avaler notre chapeau devant le président Trump en lui faisant comprendre qu'après tout, on a voulu dire la même chose et que c'est un malentendu, eh bien on avale notre chapeau pour que ça se passe bien.
C'est de l'affichage en quelque sorte.
On paye par la communication un certain nombre de questions de fond qui ne sont pas traitées parce que malheureusement, on n'a ni la sérénité, ni les moyens, ni les institutions. Un mot sur les institutions françaises, parce qu'elles sont en crise. On voit bien aujourd'hui que le pouvoir politique se réduit au président de la République, un gouvernement qui est en retrait et un parlement qui est inexistant.
Sur la scène internationale, ça a été toujours le président qui a mené la diplomatie française.
Mais un président qui n'était pas pendant toute une semaine dans l'itinérance mémorielle, qui n'était pas lui-même en train de répondre aux questions des badauds dans les cafés. Et un président qui avait le temps et la sérénité pour essayer de réfléchir aux grands enjeux du monde et de la France dans le monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pourquoi ? Nous avons un problème de séparation des pouvoirs en France. Un problème de séparation entre l'exécutif et le législatif, un problème de séparation entre l'exécutif et le judiciaire, et un problème de séparation, pardonnez-moi de le dire ici, entre les pouvoirs et les médias. Le résultat, ne l'oublions pas, la crise de 14-18, la guerre de 14-18, c'est le premier grand asservissement des médias qui ont été muselés par la censure. Eh bien, aujourd'hui aussi, il y a un pouvoir de l'argent, il y a un pouvoir de la puissance qui s'exprime et qui fait que les Français n'ont pas l'information qu'ils mériteraient d'avoir, une information vraie, une information libre, une information qui exprime...
Et ça passe par un changement des institutions, selon vous.
Une véritable séparation des pouvoirs qu'il faut organiser et structurer. Il faut le rendre possible. C'est pas un acquis. Les pouvoirs ont toujours tendance à aller vers l'excès de pouvoir. Eh bien, revenons à Montesquieu, revenons à cette idée de séparation des pouvoirs. Et Emmanuel Macron se rendrait un grand service en concentrant son pouvoir et en limitant son pouvoir parce que le débat pourrait enfin avoir lieu et il vaut mieux se battre contre des réalités plutôt que contre des girouettes ou des moulins à vent. Aujourd'hui, le débat en France, il est virtuel et c'est en ça qu'il est dangereux. Il est nourri par la colère, il ne peut pas se formuler et la démocratie n'existe pas suffisamment.
Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants.
Le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, est l'invité du Grand Rendez-vous en ce jour exceptionnel de commémoration de l'armistice de 1918. Une question de Nicolas Barré.
Oui, Dominique de Villepin, dans votre livre en 2016, vous citiez cette belle phrase fameuse d'Antonio Gramsci. « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître ». Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors qui sont... Il savait de quoi il parlait, Gramsci, puisqu'il avait été mis en prison par Mussolini. Qui sont les monstres aujourd'hui ?
Les monstres, ils sont bien sûr le risque populiste, le risque islamiste. Mais les monstres, ils sont aussi en nous. C'est les monstres de l'indifférence, c'est les monstres de l'abandon, c'est les monstres de la haine. Et je crois qu'il faut toujours commencer par ceux qu'on peut maîtriser le plus facilement. On peut davantage agir sur soi-même, agir par soi-même, plutôt que de commencer tout de suite à aller vouloir donner des leçons aux autres. Et c'est cet exercice qui fait défaut, je trouve, et en France et en Europe. On est prompt à partir en croisade. On manque de lucidité dans la capacité à faire ce que l'on pourrait faire ici même, chez nous, nous-mêmes.
Que pourrions-nous faire ici même, chez nous, nous-mêmes ?
Eh bien, je parlais tout à l'heure d'unité nationale. Réparer un tissu social qui se désagrège, qui se fracture. Je parlais de services publics. Voilà un domaine où concrètement nous pourrions agir. La question culturelle, il y a un sentiment d'être menacé par toutes sortes de risques extérieurs. Travaillons sur cette identité culturelle française par la mise en place de politiques culturelles qui donneraient les moyens à chacun dans notre pays de s'approprier et de faire vivre sa propre culture à travers la création, par exemple, plutôt que de continuer à vouloir, dans une stratégie élitiste, à donner d'en haut au bon peuple d'en bas.
Mais vous appelez quand même Emmanuel Macron à réparer tout peut-être ce qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années.
Mais écoutez, ce langage-là qui consiste pour chaque président à renvoyer aux 30 ans qui ont précédé, ça suffit. Évidemment, la responsabilité partagée, mais je ne dédouane personne dans ce que je dis aujourd'hui, je reconnais y compris ma propre part. Donc la question n'est pas là. La question c'est, passe-t-on à l'action ou pas?
Et justement, Dominique de Villepin, vous appeliez il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a changé son logiciel, sa posture vis-à-vis des Français au regard de ce qu'il vient de se passer la semaine, cette semaine d'itinérance. Vous vous dites que c'est un rendez-vous manqué, encore une fois. Il y aura d'autres, visiblement, déplacements sous cette forme.
C'est très difficile pour un homme public, un homme en charge de l'État, d'apprécier quel est le bon réglage. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut être capable de se changer et de se métamorphoser en marchant, y compris pour le chef de l'État. Je l'ai vécu comme Premier ministre, c'est très très compliqué de vouloir changer de cap. Mais je crois qu'aujourd'hui, la crise est si profonde dans notre pays que les Français veulent voir les stigmates du changement dans la réalité et peut-être y compris sur le visage du chef de l'État. Il y a aujourd'hui un besoin profondément de voir que les choses vont bouger. Il y a un besoin de renverser la table. Et le résultat, c'est qu'on se cantonne à une bataille de communication et d'image où d'aucuns veulent voir la souffrance sur le visage du chef de l'État, une figure un peu christique aujourd'hui. Mais ça ne change rien. Ce qui doit changer, c'est la réalité. Et en disant « je ne changerai pas de cap », le président, certes, maintient une certaine vision des réformes, mais qui, dans mon esprit, sont largement virtuelles, plutôt qu'une réalité qui est qu'on ne transforme un pays qu'avec lui-même, qu'avec empathie et qu'avec la capacité à un moment donné de créer un mouvement. C'est ce mouvement qui fait défaut. Derrière toutes les réformes que veut faire Emmanuel Macron, il y a une donnée fondamentale, c'est la réforme des mentalités. Vous pouvez réformer tout le travail que vous voulez, la formation professionnelle, les retraites. Si vous ne changez pas les mentalités, qui est le cœur du sujet, vous ne permettez pas à un peuple de réapprendre à marcher, à avancer et à regarder vers l'avenir.
Mais vous lui demandez de changer lui ou de changer sa politique?
Pour changer les mentalités, il faut être capable, justement, d'apprendre en marchant et de se métamorphoser en marchant. Et c'est ce qui fait défaut. On a le sentiment d'un monstre de certitude, d'un monstre d'arrogance et d'une espèce de rigidité, d'imperméabilité au changement. Et ça, c'est un vrai problème dans un fonctionnement démocratique quand les choses sont aussi cristallisées qu'aujourd'hui. Et donc, il est très important de revenir à une figure humaine, mais une fois de plus, une figure politique pour agir, elle doit être dans un bon positionnement. Et c'est pour ça que je parle de crise institutionnelle, de séparation des pouvoirs. Je crois que le président, il n'est pas en mesure aujourd'hui ni d'arbitrer, ni d'être le garant de la justice, des services publics, tout simplement parce que le débat ne se fait pas dans nos institutions, il se fait en dehors de nos institutions. Et donc la seule chose qui lui reste, c'est d'aller dans la rue, d'aller vers le bon peuple et de recevoir les crachats. C'est un exercice cathartique, mais ce n'est pas un exercice qui va nous sauver. Ça ne fait pas progresser le débat démocratique, ça ne fait pas avancer l'action démocratique. Une fois de plus, cela, au bout du compte, je le crains, se réduit à un exercice de communication avec de plus en plus de haine, de plus en plus d'opposition, et de moins en moins de capacité à nous écouter, à nous entendre et à travailler ensemble. Et c'est ça qui fait défaut.
Vous avez connu ça vous-même quand vous étiez effectivement, vous avez essayé de changer les mentalités avec le contrat première embauche, on s'en souvient, puis vous avez dû céder. Quand est-ce que le courage politique devient de l'entêtement?
Et vous avez raison. Quand ça ne marche pas, moi, j'allais dire, j'avais de la chance. Ça durait 2 ans et je pouvais pas prolonger puisque le mandat de Jacques Chirac s'arrêtait. Donc moi, c'était 2 ans. Donc j'ai essayé de faire le maximum de choses en 2 ans. Mais de toute façon, les échéances démocratiques étaient là. Lui, il a encore 3 ans. La question, c'est est-ce qu'on est parti pour 3 ans d'embourbement, 3 ans enlisés, ou est-ce que ces années vont malgré tout être mises à profit?
Il y aura un vote des Français l'année prochaine.
Et malheureusement, je crains que d'élection en élection, on ne subisse la vague de colère, l'érosion du pouvoir et l'incapacité à agir. Et à un moment où l'Europe est en crise, la mondialisation est en crise, si la France perce sa capacité à agir sur elle-même, eh bien, ce sont des années gâchées.
Mais encore une fois, Dominique de Villepin, pardonnez-moi d'y revenir, mais qu'est-ce que le président devrait mettre en œuvre rapidement, un changement de cap, disiez-vous, de sa politique?
Alors, non, ce qui me paraît fondamental, d'abord, c'est de rétablir le débat démocratique. Nous donnons des leçons de démocratie à un certain nombre de pays en Europe. La démocratie n'est pas vivante en France. Et aujourd'hui, le débat démocratique, il n'a pas lieu. Malheureusement, certains se réjouissent dans la majorité qu'il n'y ait pas une opposition, mais des oppositions. Un pouvoir a besoin d'opposition. Et il faut que le pouvoir...
Mais ça, c'est à chaque famille politique.
Mais ça rendrait service au gouvernement, à la majorité et au président d'avoir une organisation structurée, des oppositions ou une opposition structurée.
Donc ça, c'est aux Républicains de le faire, c'est à la France Insoumise, c'est au Parti Socialiste.
C'est au président de le faire et c'est au gouvernement de le faire. C'est eux qui souffrent le plus de cette absence de débat démocratique. Et c'est là où, plutôt que de mettre dans un grand sac la République en marche, tout le monde, ils auraient mieux fait de structurer une coalition avec un débat, une capacité à faire surgir des idées. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'aucune idée ne surgit et qu'il n'y a pas de débat. Donc, il faut réorganiser la vie politique. C'est pour ça que je parle d'équilibre des pouvoirs, de séparation des pouvoirs. Et je crois qu'il nous faut plus de pluralité dans le débat politique. Et c'est là où on peut d'ailleurs se poser la question, ne faudrait-il pas découpler les élections législatives des élections présidentielles pour qu'il y ait en permanence cette exigence de débat? Aujourd'hui, le quinquennat fait que c'est trop court et que c'est trop monolithique.
Donc avec un risque de cohabitation, mais qu'importe, au moins il y aurait du débat.
Le risque, quand vous êtes monolithique, c'est que vous vous fracturiez. C'est que vous n'êtes plus capable d'assimiler, de recevoir de l'extérieur suffisamment de messages qui vous permettent de vous changer. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un système, dans un pouvoir qui est enfermé sur lui-même, qui n'écoute pas et qui en est réduit à des exercices de communication.
Nicolas Barré.
Il y a une idée quand même qui surgit en ce moment, c'est celle de revoir l'application de la loi de 1905 pour, en quelque sorte, mieux contrôler les cultes et leurs sources de financement. L'idée étant évidemment de lutter contre les dérives islamistes. Est-ce que nous prenons suffisamment la mesure de cette menace ?
Alors, c'est une menace qu'il faut prendre évidemment très au sérieux. Faut-il réformer la loi 1905? Vous savez combien les Français y sont attachés.
Pour contrôler les financements,
des grandes vaches sacrées de notre République. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'attaquer à la question du financement. Et c'est pas le premier gouvernement qui va s'attaquer à cela. Mais il faut aboutir, oui, faire en sorte que les financements extérieurs puissent être soit clairement contrôlés des pays étrangers, soit supprimés et donner les moyens à ces cultes de s'organiser à travers un nouveau système cultuel. Cela me paraît absolument nécessaire si on veut éviter cette intrusion, ce virus qui a tendance à se répandre dans notre pays.
Dominique de Villepin, on va terminer cette émission par l'image du jour, celle qu'on va voir apparaître d'ici quelques instants. C'est quand même les vainqueurs et les vaincus d'hier réunis sous l'Arc de Triomphe, dont certains iront ensuite au Forum sur la paix. Qu'est-ce que vous avez quand même envie de retenir? Cette image d'optimisme où on arrive à se retrouver, une image où l'Europe finalement n'est plus au cœur du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette commémoration?
L'Europe a fait beaucoup de chemin et l'Europe nous a en grande partie apporté la paix. C'est un bien extrêmement précieux. Nous devons en être comptables pour les générations futures. Et cela doit nous amener à être en action et en initiative. Et je pense que une des missions de la France, une des ardentes obligations de la France, c'est d'avoir une diplomatie d'initiative, de médiation, d'être un trait d'union entre des pays, des peuples, et ne jamais se satisfaire de l'état du monde. Et donc de proposer un certain nombre de changement. Donc plus la France est en initiative, plus elle est elle-même et plus la fierté française crée de l'unité. Et cette unité, elle nous fait malheureusement un peu défaut.
Et le Forum sur la paix, qui est à l'initiative du président Macron, on l'a dit, pourrait apporter, vous espérez, en tout cas un certain nombre d'idées, voire de solutions?
Je ne suis pas sûr que les conditions soient réunies aujourd'hui pour que ce forum puisse être efficace. Il est en marge des choses, il n'est pas au cœur des choses. Il faut, je crois, surtout que sur la table des dirigeants de ce monde, le G20 de Buenos Aires pourra s'en préoccuper, il y ait une feuille de route. Je parlais du Yémen. Le Yémen, c'est tout de suite, ce sont des femmes, des enfants qui meurent tous les jours sous les bombardements avec un État qui est aujourd'hui représenté ici, l'Arabie Saoudite. Nous avons des moyens d'action sur l'Arabie Saoudite. Faisons en sorte que ce devoir ne soit pas un devoir pour après-demain, car ce sera trop tard.
Merci Dominique de Villepin d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour cette émission en partenariat avec CNews et Les Échos. Bonne semaine à tous.